Bonjour à toutes et à tous. Ça fait longtemps, Sylvie. Ah, c'est moi ou toi qui venons plus à l'église, mais... Ça fait plaisir de vous voir ce matin, en tout cas, et puis j'aimerais partager quelques mots que Dieu a mis sur mon cœur. Alors, si vous êtes... certains sont peut-être un peu comme moi, et au fil du temps, vous avez accumulé beaucoup de choses. On passe peut-être, on commence par un appartement, ensuite on va acheter une maison, on aménage un grenier, un abri de jardin pour entreposer les outils, les vélos des enfants, 16 pouces, 20 pouces, 24 pouces. Mais pourquoi on garde les anciens? Ah oui, pour les cousines qui viennent en vacances. Les archives, les 75 manuels scolaires de français de ma chère épouse, qui est professeure et qui les garde, bien qu'on trouve tout sur Internet maintenant. Voilà, c'est pour toi Laetitia, je t'aime. Cet hiver, je réfléchissais à ma prochaine construction. J'aime bien construire. Et la prochaine construction, ça devait être un carport. Un carport qui intégrerait un nouvel abri de jardin. Et mon épouse a sorti une phrase vraiment, vraiment saugrenue. Et si au lieu de construire un nouvel abri, on faisait de la place en se débarrassant de certaines choses qui encombrent l'abri actuel? Alors, je pensais vous montrer une photo, mais je n'ai pas osé ce matin. Alors, je vous épargne. Mais quelle idée incroyable! Pour moi, qui suis un peu historien de formation, un peu conservateur, genre conservateur de musée, et archéologue dans l'âme, ça a été une révélation. Alors, s'intéressant de plus en plus au sujet, elle a suivi une conférence, d'ailleurs donnée par quelqu'un de cette église, Elisabeth Testori, que je ne nommerai pas, mais elle a... suivi une conférence sur une thématique intrigante et en même temps attirante, le désencombrement. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce mot-là, moi je plonge dedans maintenant. C'est tout un monde le désencombrement, avec ses spécialistes, avec ses influenceurs sur les réseaux sociaux, avec ses 7 principes infaillibles, fondamentaux, ses livres sur comment s'y prendre qui ont été vendus à des millions d'exemplaires. J'espère que ce n'est pas la même personne qui a acheté, parce que sinon... Alors, si vous voulez une définition simple que j'ai trouvée, il y a sans doute plusieurs écoles aussi du désencombrement, mais le désencombrement, c'est se débarrasser des choses inutiles, inutilisées ou superflues. Et ce matin, j'aimerais prendre cette porte d'entrée du désencombrement et par analogie, quelque part, réfléchir avec vous sur notre désencombrement spirituel. Parce que si après tout, comme le dit Paul, nos corps sont le temple du Saint-Esprit, alors on a peut-être besoin aussi de désencombrer nos maisons spirituelles. Et j'ai 3 parties assez simples. Qu'est-ce qui nous encombre? Et puis après, on va faire un focus sur le désencombrement spirituel. Et puis la dernière partie, attendez, je vais au bout des 15 pages. Pas de dernière partie. Ah oui, si. Comment appréhender ce désencombrement dans ma propre vie? Qu'est-ce qui nous encombre d'abord? J'ai quelques recherches et je suis tombé sur un article d'un conseiller chrétien en relation d'aide et qui est formateur pour ACC France, qui est une association de conseillers en relation d'aide français. Il s'appelle Jean-Michel Martin, et c'est intéressant parce qu'il dresse une typologie de l'encombrement dans nos vies. Alors, en dehors de l'encombrement matériel par lequel j'ai commencé, et que je ne vais pas m'apesantir là-dessus parce que je serais assez faible pour donner des conseils, comme vous l'avez perçu, il note 3 types d'encombrement. D'abord, l'encombrement mental et cognitif. On a comme idée arrêtée des croyances erronées, des préjugés qu'on peut avoir, des convictions immuables mais non examinées, des convictions qu'on pourrait qualifier d'indéboulonnables. Tout ça constitue parfois un encombrement mental. Et après, il y a l'encombrement émotionnel. Évidemment, les deux sont assez liés, mais je donne quelques exemples, des vieilles rancunes, des haines durables, la fermeture aux autres, un désir de vengeance parfois, le besoin d'avoir toujours raison. Peut-être vous connaissez des gens comme ça, pas nous, mais des gens qui ont toujours besoin d'avoir raison. Il y a aussi des souvenirs douloureux. Alors on est plutôt victime dans ce cas-là, Mais ces souvenirs, quelque part, on les arrose régulièrement, on les entretient au lieu de les laisser disparaître avec le temps. Et finalement, il y a aussi l'encombrement spirituel, c'est le troisième type d'encombrement. Et tous ces jugements posés sur les autres, sur ceux qui finalement ne croient pas comme nous, toutes ces peurs qui peut-être nous ont été transmises, par exemple d'un Dieu vengeur et implacable, toute cette culpabilité finalement qui est à identifier et à déposer. Et voici ce qu'il explique, et je le cite. Se désencombrer, c'est vivre un processus, un chemin, par lequel nous nous défaisons de ce qui est superflu, inutile, lourd, nocif pour soi et autrui, dans le souci de nous simplifier la vie pour y retrouver l'essentiel. Alors je pense qu'on ne va pas entrer dans plein d'exemples, je pense que chacun d'entre nous, on peut cibler des aspects émotionnels, mentaux ou spirituels qui soit nous encombrent à l'heure actuelle, soit nous ont encombrés dans le passé. Mais la conséquence, elle peut être grave si ce n'est pas résolu, parce qu'on peut avoir des effets de blocage dans notre progression spirituelle pendant des années. Et on peut aller jusqu'à avoir besoin d'un accompagnement pour redresser nos vies. Alors, je ne vais pas trop m'attarder sur le désencombrement mental et émotionnel. Je pense qu'on peut assez simplement l'appréhender, mais j'aimerais juste signaler qu'il est bien souvent lié à la question du souci. Et Jésus, dans les évangiles, parle pas mal de la question du souci, et j'aimerais vous citer un verset dans Matthieu 6, 25, 26, et le verset 34. C'est Jésus qui parle, hein. Il dit « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Et je pense qu'en temps de pandémie, même si évidemment c'est le déconfinement, donc tout va aller pour le mieux, là, les terrasses vont se rouvrir. Mais je pense que dans ces temps de pandémie qu'on a vécu et qu'on vivra peut-être encore un petit peu, ces paroles sont précieuses. Jésus ne lance pas un appel à la déresponsabilisation personnelle et à vivre au crochet des autres. Et je dirais que la prévoyance, elle n'est pas une mauvaise chose en soi, sauf si elle nous empêche de nous focaliser sur l'essentiel et quelque part nous pousse à toujours prévoir nous-mêmes de nous en sortir par nos propres forces. Et à contrario, je pense que Jésus, dans ce passage, nous invite à reconnaître deux éléments essentiels. Le premier, c'est que le présent devrait être vécu dans toute sa richesse. On entend parfois autour de nous quand la pandémie sera terminée. Comme si notre vie, actuellement, elle était entre parenthèses. Mais en fait, notre vie, elle continue de se dérouler. Et ce serait une erreur, quelque part, de croire qu'on l'a mise sur pause. Et donc saisir ce présent plutôt que de toujours aspirer à un meilleur avenir, je pense que c'est une clé qui est importante à prendre en compte. J'ai lu une phrase récemment et je trouve qu'elle est tellement vraie, je voudrais juste vous la citer. Le présent ne se représente pas, il se présente. Le présent ne se représente pas, il se présente. Et dans ce présent, et c'est le deuxième point, mais aussi pour notre avenir, nous devons garder une conscience que ce n'est pas par nos propres forces, mais c'est uniquement par notre pleine dépendance à Dieu que nous pouvons y arriver. Vivre en sécurité, je pense que chacun aspire à ça, et on a vécu des mois de longue insécurisation, mais vivre en sécurité, au final, c'est vivre près de son cœur à lui, et savoir que c'est lui qui nous nourrit. Quelque part, c'est essentiel, c'est une vérité simple, mais qu'on oublie en fait. Maintenant, si on se focalise sur ce que j'ai appelé le désencombrement spirituel, comment le définir ? Ben, je dirais que se désencombrer spirituellement, c'est déposer toutes nos valises, hein, les déposer au pied de la croix, qu'elles soient matérielles, mentales, cognitives, émotionnelles, spirituelles ou autres, en nous disant quelque part que désormais elles ne nous appartiennent plus. C'est-à-dire les difficultés, les tristesses, les rancunes, les colères, les jalousies, les culpabilités, les hontes de nos parents, de nos proches, toutes ces réalités qui sont toxiques et qui empoisonnent nos histoires personnelles, alors qu'en réalité, elles relèvent de nos histoires familiales et collectives et qu'on les porte quelque part inutilement. Ça vous paraît peut-être abstrait, mais j'aimerais faire un petit focus sur nos traditions spirituelles, par exemple. Traditions spirituelles, héritées de nos parcours personnels, nos parcours d'église. Ça peut être évidemment d'une extrême richesse, et je ne suis pas contre la tradition, quand elle est réfléchie. Elles peuvent être d'une extrême richesse parce qu'elles ont contribué à l'émergence de notre foi, à sa consolidation, mais elles peuvent être aussi très encombrantes, voire traumatisantes. Pourquoi ? Parce qu'elles peuvent orienter notre façon de penser comme ça, de façon étriquée, et finalement nous conduire à juger ceux qui n'ont pas la même approche sur l'une ou l'autre thématique, notamment spirituelle, si je parle dans le cadre d'une église. Et apparemment, il semblerait que c'est quelque chose qui arrive dans le cadre des églises. Je ne sais pas vous si vous avez déjà vécu ça, mais... Et Paul a ce conseil à Tite, dans Tite 3, verset 9, que je trouve très intéressant d'éviter d'entrer dans ce genre de polémique. Apparemment, les polémiques, à l'époque, c'était déjà le cas sur les traditions, sur voilà, ce qui est bien de faire, de ne pas faire. Il lui dit, mais évite les spéculations absurdes, l'étude des généalogies, les disputes et les polémiques au sujet de la loi, car elles sont inutiles et vides de sens. Et ce passage, il est pris dans un contexte plus large sur les questions des divisions. Alors, je dirais que parfois les traditions, et c'était le cas de ces juifs à l'époque, hein, qui quelque part avaient peut-être des bonnes raisons de penser ce qu'ils pensaient, mais qui voulaient les imposer aux autres sans créer un dialogue. Ces traditions peuvent créer un véritable encombrement, non seulement au niveau personnel, mais aussi au niveau collectif. Pourquoi ? Parce qu'elles ont pour conséquence une vie communautaire qui n'est plus focalisée sur l'essentiel, mais sur des points de détail qui apportent la division. Il n'y a pas besoin d'aller très loin, mais dans l'histoire de l'Église, ceux qui la connaissent un petit peu, peut-être même la raison pour laquelle notre famille d'église existe. Hein, puisqu'en 1929, il y a eu, ou 27 plutôt, il y a eu une sorte de schisme chez les baptistes. Mais ces points de détail sont parfois allés très loin, jusqu'à la séparation, parce que les conflits n'ont pas pu être solutionnés. Et au passage, je pense que le message essentiel qu'une communauté se doit d'apporter autour d'elle a été un peu zappé. Pourquoi ce message essentiel ? Sur quoi est-ce qu'on se réunit ? Ceux qui suivent Jésus. Jésus est venu pour nous sauver, tous, et nous offrir cette rédemption et une nouvelle vie en paix avec lui. C'est simple, c'est puissant. Parfois, on l'oublie et on s'encombre de plein d'autres choses. Et Jésus nous rappelle aussi dans Jean 17, dans ce passage qu'on appelle prière sacerdotale, je crois, il prie pour ses disciples et il met en avant l'importance de l'unité, le fait que c'est un enjeu spirituel auquel ils vont être confrontés dès que lui sera parti. Hein, Jean 17, verset 11, il dit « Bientôt je ne serai plus dans le monde, car je vais à toi », donc il prie Dieu. « Je vais à toi, mais eux, ils vont rester dans le monde. Père Saint, garde-les par le pouvoir de ton nom, celui que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous le sommes. » Je dirais que l'encombrement collectif spirituel, lorsqu'il mène à de vaines querelles sur des points de vue divergents sur des sujets mineurs, alors je ne parle pas des choses fondamentales qui constituent notre foi, mais quelque part, ça conduit immanquablement à un manque d'unité. Ce manque d'unité, il est d'une part à l'encontre, on vient de le lire, de ce que Jésus souhaitait pour ses disciples, et je dirais de ce que Dieu souhaite pour une communauté qui a un impact autour d'elle. Et boosté par ton témoignage, je ne pensais pas qu'en s'enregistrant comme ça, on aurait un impact à des milliers de kilomètres en pleine froidure. C'est génial, même si c'est un impact que pour une ou deux ou trois personnes, c'est super. On a cette responsabilité de briller autour de nous, de nous focaliser sur l'essentiel. Ça ne signifie pas qu'il ne doit pas avoir de débats et d'avis divergents au sein d'une communauté. Ça signifie qu'au lieu de les rejeter en bloc, il s'agit de rester ouvert à la différence, d'essayer de la comprendre, première étape, d'essayer de l'accueillir avec amour et dialoguer avec la personne, même si ça ne correspond pas à mon propre parcours spirituel. Pas évident, parce qu'en général, on est des personnes de conviction et on a besoin de conviction également. Je ne suis pas en train de prêcher quelque chose de mielleux ou tout est bon, quel qu'il soit. Et je pense que l'unité dans une communauté, elle est à ce prix. Et vous le savez, vous composez cette communauté et on est très divers, on vient d'horizons très différents. Et on le dit parfois en réunion ou en assemblée générale, quand il y a des débats, eh ben c'est une richesse, cette diversité. Et on se doit de se respecter les uns les autres et d'être à l'écoute et aussi d'accepter peut-être de changer. Alors voilà, je suis parti sur une dimension collective d'encombrement et j'aimerais revenir sur un dernier point sur nos propres vies. Comment appréhender ce désencombrement pour ma vie? Alors, les spécialistes du désencombrement pointent deux risques dans ce processus. Évidemment, c'est sur le plan matériel, mais... Et je les trouve intéressants si on les transpose au domaine spirituel. Le premier effet qui peut arriver, c'est ce qu'ils ont appelé l'effet Tetris. Vous savez ce que c'est, Tetris, hein, ceux qui ont une Game Boy... D'autres consoles d'ailleurs. Je connais des spécialistes de ça. Quand on partait, quand j'étais petit et qu'on partait en vacances, on était 5 enfants et puis on avait une grande voiture, mais voilà, à 7, il fallait. C'était un peu le challenge, quoi. Hein. Tout faire rentrer dans la voiture, rien oublier, optimiser l'agencement, comme dans un Tetris. Et l'effet Tetris, c'est quand on a plein de choses et qu'on essaye de les arranger ensemble pour donner une impression de rangée. On a l'impression, mais en fait, c'est pas rangé. Et pour retrouver quelque chose, c'est compliqué, surtout si c'est deux rangs derrière. Vous savez, c'est un peu le sketch où vous essayez d'enlever une brique et puis tout va exploser, quoi. Tout va tomber, vous explosez à la figure et c'est l'encombrement. Et parfois, au niveau spirituel, il me semble qu'on peut avoir cet effet Tetris. On a tous un parcours et il est tel qu'il est. Je pense qu'on n'a pas à le juger, mais on hérite de ce parcours quelque part. Et on a empilé les expériences, on a empilé parfois les amertumes, parfois on a empilé les conflits, les blessures. On les a bien imbriqués. Hein, on les a mis au deuxième rang de la brique, derrière. Et on donne une impression de façade finalement tout à fait correcte. En fait, il y a plein de choses qu'on n'a pas vraiment réglées. Et un jour, si ces trajectoires elles sont pas traitées, appréhendées ou guéries, parfois on a besoin de guérison, elles peuvent ressortir à la figure de quelqu'un dans un contexte, dans une situation de stress, sous pression, en temps de pandémie. Pas mal de gens qui ont, passez-moi l'expression, mais pété un câble dans ces derniers mois, parce qu'ils ont accumulé. Ils ont essayé d'être beaux en façade, et finalement ils n'ont pas réglé les choses au fond d'eux. C'est pour ça qu'on a besoin de faire un ménage dans nos vies. Parce que finalement, toutes ces choses qu'on traîne comme des boulets, elles cachent quelque chose. Elles cachent notre véritable trésor spirituel. Hein, notre trésor qui est caché dans ces vases d'argile que nous sommes. Et finalement, on passe à côté de l'essentiel qu'on peut communiquer. On ne peut pas éclore. On traîne ces éléments avec nous. Le deuxième effet négatif qui peut arriver, c'est ce que les spécialistes du désencombrement ont appelé l'effet yo-yo. Vous connaissez un yo-yo, hein, jouer. L'effet yo-yo, c'est quand vous avez tenté de ranger sans désencombrer. Ça, moi, je suis fort pour ça. Vous n'arrivez pas à vous libérer des choses, mais... Vous rangez bien, c'est agencé. Sauf que le désordre, il refait rapidement surface. Des gens à qui ça parle, c'est bien. Des gens avec beaucoup d'enfants, c'est ça. Et le problème, c'est que ça vous désole parce que vous pensiez avoir réglé le problème. Et en fait, vous ne l'aviez pas traité à la racine. C'est-à-dire en vous séparant des choses. Et en désencombrement, il donne ce conseil. Il faut faire sortir de la maison l'objet. Si je fais cette analogie au niveau spirituel, au niveau de nos maisons spirituelles, parfois on pense qu'on peut vivre avec ces boulets, avec ces amertumes, avec ces choses qu'on a traînées et qu'on a accumulées au fil du temps. Et en fait, non. On pensait des fois les avoir expédiées hors de notre vie, mais en fait, elles influencent encore notre marche. On les traîne comme des casseroles. Et le pire, c'est que ça crée de la culpabilité en nous, et on n'arrive pas à le régler. Vous savez, ça peut être aussi un bon vieux péché, péché mignon, plus ou moins mignon. Bon vieux péché dans lequel vous retombez, vous savez que vous allez retomber en situation de stress. On reste des humains. Dans 2 Pierre 2, au verset 20, il y a un passage un tout petit peu violent, mais qui illustre assez bien ça. 2 Pierre 2, 20. Si après s'être arrachés aux influences corruptrices du monde par la connaissance qu'ils ont eue de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils se laissent de nouveau prendre et dominer par elles, leur dernière condition est pire que la première. Il aurait mieux valu pour eux ne pas connaître le chemin d'une vie juste plutôt que de s'en détourner après l'avoir connu et d'abandonner le saint commandement qui leur avait été transmis. Il confirme la vérité de ce proverbe. Le chien retourne à ce qu'il a vomi. En outre, la truie à peine lavée se vautre de nouveau dans la boue. Pas mal les images de l'évangile, des épîtres. Alors ce passage, il est un peu extrême, comme je l'ai dit. Il concerne des gens qui sciemment repartent en pleine conscience vers le péché, ce qu'on appelle dans le jargon l'apostasie. Mais je pense qu'il y a quand même à prendre, pour nous qui sont, comme j'espère, pas à ce niveau-là, et ça souligne un mécanisme pour moi qui est assez clair, c'est que évidemment, ce n'est pas un scoop. Il y a des influences corruptrices qui cherchent à nous éloigner de la présence de Dieu. Quelque part, les choses non réglées dans nos vies parasitent cette relation avec Dieu. Elles nous empêchent de connaître cette véritable libération. Au final, qu'est-ce que Dieu veut pour nous ? Il veut qu'on ait une vie pleine en connexion avec lui. Alors j'ai envie de vous dire ce matin, débarrassez-vous de ce qui vous encombre spirituellement. Il n'y a qu'une chose, il n'y a pas un mode d'emploi tout fait. Il y a peut-être besoin de parler à des gens, à des amis, à des spécialistes. Et je connais le chemin, il faut venir à la croix libératrice, il faut se recentrer sur l'essentiel. C'est à ce prix-là qu'on aura cette nouveauté de vie. Je pense qu'une première étape, et c'était un peu mon challenge ce matin, ça ne veut pas dire se créer des problèmes là où il n'y en a pas. Mais peut-être vous êtes conscient de certains blocages dans vos vies. Et je pense que cette première étape de l'auto-diagnostic, elle est importante. De reconnaître que mon abri de jardin, il faudrait peut-être que je désencombre et que j'y travaille. Que notre encombrement et les racines bien profondes, elles sont là et elles nous blessent, elles nous parasitent. Et elles ont un impact aussi sur notre entourage. Peut-être faut se faire aider dans ce processus. Il y a des personnes qualifiées en relation d'aide. On a aussi des compétences dans l'Église. Voilà, je m'arrête là pour ce message. Et je ne sais pas si ça vous a parlé. Moi, ça m'a parlé quand je l'ai levé, parce que parfois, on a l'impression aussi qu'on est juste dans un cycle d'enchaînement de choses et qu'on répète un peu aussi toujours les mêmes choses, sans pouvoir briser ce cycle quelque part. Et il y a peut-être des raisons profondes à sur lesquels enquêter et faire sortir ces choses de notre maison. J'avais à cœur qu'on puisse chanter un chant ou peut-être plusieurs chants si vous êtes inspirés, mais qu'on puisse prendre. J'avais à cœur qu'on chante "Je laisse à tes pieds mes fardeaux". Et t'as encore un peu d'énergie. Tu connais pas? Prenez un temps peut-être d'introspection, vous n'êtes pas obligé de chanter, pour parler à Dieu, pour essayer de diagnostiquer aussi les zones d'encombrement dans vos vies. Voilà. Sentez-vous libre aussi de contacter nos pasteurs si vous avez besoin d'aller plus loin.